Citoyennes et citoyens, la campagne de financement de Nexus 6 est toujours en cours, mais plus pour très longtemps. On est tout proche du prochain palier qui nous permettra d'ajouter un nouveau niveau, de nouveaux contenus, des cinématiques et d'autres surprises. N'hésitez pas à aller jeter un œil au projet, il y a forcément une contrepartie qui vous intéressera. Par ailleurs, vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur la page Steam de Get Funky Deliver or Die et en l'ajoutant à votre wishlist. Dans l'industrie du jeu vidéo, la wishlist, c'est un levier direct sur la visibilité, un signal concret d'intérêt, un vrai poids dans les discussions avec les partenaires. Chaque ajout fait une différence réelle. Si vous voulez nous aider concrètement, c'est le geste à faire maintenant. On compte sur vous. Merci à toutes et à tous. Des films de science-fiction oubliés, il y en a pléthore. Alors évidemment, il y en a qui étaient déjà à l'époque de leur sortie des œuvres de niche qui, malgré le fait que l'offre n'était pas aussi abondante qu'en 2026, n'avaient pas réussi à être connues par le grand public. Puis il y en a d'autres, des longs-métrages qui ont quand même eu une certaine renommée, une campagne de communication costaud, une sortie en fanfare, bref, des blockbusters. Et qui pourtant ont un peu disparu de la mémoire collective. Et à mon sens, il y a un film qui représente parfaitement cela. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un univers majeur de la science-fiction de la fin du 20e, début 21e siècle. Un univers dont je n'ai étonnamment jamais parlé sur la chaîne, ou sporadiquement, alors qu'il aura certainement marqué nombre d'entre vous. Et tout a commencé par un film, mis en scène par le réalisateur allemand Roland Emmerich en 1994, Stargate, sous-titré La Porte des Étoiles, dans le pays de Victor Hugo. Année 20, une mission archéologique découvre un énorme anneau rempli de symboles étranges auxquels personne ne comprend rien. C'est pourquoi l'armée américaine fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle le cache pendant 70 ans. Ah, l'efficacité bureaucratique des sociétés modernes, quel bonheur ! Ellipse, et nous voilà dans les années 90, où nous faisons la connaissance de Daniel Jackson, égyptologue brillant, mais controversé car convaincu que l'âge des pyramides n'est pas celui que l'on croit. Une question qui en pose une autre.
Mais alors qui a bâti les pyramides d'après vous ?
C'est vrai, j'ignore qui a bâti les pyramides.
Tout le monde se fout de sa gueule et de ses théories.
Les Atlantes, peut-être, ou bien les petits hommes verts.
Spoiler, il avait raison, ce con. Heureusement, Catherine, la fille de l'archéologue qui a découvert l'anneau et qui semble s'y connaître elle aussi, est là pour lui donner la chance de prouver ses dires. Notre complotiste en herbe se retrouve donc envoyé dans une base secrète où il fout la misère à toute l'équipe de scientifiques qui bosse depuis des années sur la traduction des symboles qui accompagnaient l'anneau.
Ça se demander qui a traduit ça.
C'est moi.
Bim bam boum, le hasard fait bien les choses, puisqu'une carte du ciel sur le journal d'un garde lui permet de comprendre que les inscriptions sont en fait des constellations permettant de désigner un point dans l'espace. Réunion avec un public beaucoup plus attentif qu'auparavant, dont Kurt Motherfucking Russell, aka Jack O'Neill, impeccable dans ce rôle de militaire imperturbable. Tout le monde est estomaqué, Daniel a trouvé la réponse.
Il a réussi.
Non, ce symbole-là ne figure nulle part sur l'appareil.
Quel appareil ?
Montrez-le-lui.
On lui montre enfin l'anneau, la fameuse porte des étoiles. Et comme on est dans un film d'Emmerich, on ne perd pas de temps. On teste direct, on a confiance, je sais pas moi, hein. On a juste aucune idée de à quoi sert ce machin. Pour autant qu'on sache, c'est un canon laser qui va transpercer toute la base de son rayon de la mort. Mais bon, si les hiéroglyphes d'il y a 5000 ans disent « porte des étoiles », il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On rentre les coordonnées et au final, tout se passe pour le mieux pour nous permettre d'assister à un moment culte. On envoie quand même un robot pour le premier test, on n'est pas complètement con non plus, et celui-ci se retrouve propulsé
dans la galaxie de Maliak, à l'autre bout de l'univers.
Maintenant, on y va vraiment. Daniel promet qu'il saura trouver sur place le numéro de téléphone spatial qui permettra de revenir sur Terre. Donc, tout le monde fait le grand plongeon. Deuxième moment culte. De l'autre côté, il découvre une civilisation humaine restée au stade de l'Égypte antique. Ou en tout cas, l'idée que l'on s'en fait. Pyramides, désert, esclavage pour des politiques de grands travaux et des chameaux extraterrestres. Tout ça c'est très bien, mais il y a un petit souci. Disons que la temporalité de la science n'est pas la même que celle de la chose militaire. À peine arrivés, les bidasses veulent repartir. Sauf que Daniel leur explique que ça se fait pas comme ça.
Vous êtes là pour réactiver la porte des étoiles. Vous allez le faire, oui ou non ?
Non, je regrette.
Ils prennent la chose avec philosophie.
Alors t'as raconté n'importe quoi, ordure !
De toute façon, une tempête se déclare, bloquant une partie de notre petite troupe dans la ville des autochtones, qui les prennent pour des envoyés de leur dieu. Rah. Ils en profitent donc pour sociabiliser. L'autre partie de l'équipe, elle, est restée près de la porte. Et clairement, c'est pas la même ambiance. un putain de vaisseau spatial en forme de pyramide a atterri sur la pyramide, confirmant la théorie du parking extraterrestre. Et outre les guerriers à tête d'Anubis ou d'Osiris, il amène Big Boss Ra, un extraterrestre plutôt bling-bling qui parasite les corps humains. Il est là pour récupérer sa dîme habituelle, le minerai qu'extrait nos amphitryons. Entre-temps, après quelques heures de Duolingo...
Nedjet ?
Neda.
Neda.
Daniel parvient à comprendre la langue locale et découvre les coordonnées de la Terre. Problème.
L'usure l'a effacé. On peut rien faire sans ce symbole.
Malgré la situation merdique, O'Neill semble avoir un plan. On retourne à la pyramide et là, surprise, il découvre les aliens garés en double file. O'Neill n'hésite pas, il part direct chercher.
Qu'est-ce que vous cherchez ?
Vite.
Ils se font capturer, gadget au casque trop stylé. Oh tiens, c'est Jimon Unsu. Et Ra échafouin. Il a découvert que le gouvernement américain, dans la diplomatie qui le caractérise toujours, avait prévu de nucléariser le coin. Ra, il trouve pas ça cool et décide donc de renvoyer la bombe avec une pincée de son minerai pour éradiquer la Terre. Une planète qui s'était rebellée contre lui il y a plusieurs millénaires. Il était donc temps d'y mettre un dernier coup de bégon. Ensuite, tout s'enchaîne vite. Rébellion, révolution, retour à l'envoyeur, on casse du dieu, la Terre et la planète désertique sont sauvées, tout le monde peut rentrer à la maison. Sauf Daniel qui lui a très bien sociabilisé. Et le film se termine sur une promesse.
On se reverra.
J'adore ce film. J'aime son univers, son concept, le choix des comédiens, le mélange typique de ces années-là d'action, d'humour et de punchline mythique.
Mes respects à Toutankhamon du con.
Et puis vous le savez, je suis très sensible à la démarche de création cinématographique à l'ancienne. Des décors réels, des maquettes, des costumes, 16 000 putains de figurants qui appuient le souffle épique qui habite le film. Ça c'est vraiment LE truc qui me manque le plus. Bon, même si les foules en CGI c'est très bien fait hein, maintenant, on sait que c'est pas réel. Là, tu sens la poussière, la fatigue, l'organisation de malades pour coordonner tout ce beau petit monde. Ça donne un cachet que tu peux pas simuler. Mais les CGI sont quand même là, et il y a juste ce qu'il faut pour pas que ça soit irregardable dans les années suivantes. À part quelques fois, ça a très bien vieilli. Je considère que Stargate fait partie des très bons blockbusters des années 90. Ce qui va aussi avec certains défauts inhérents à cette qualification. Déjà, un scénario très... direct. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et en le revoyant, bah, j'ai été surpris d'à quel point les choses s'enchaînent vite. Et c'est hyper simple. Introduction, voyage, arrivée de Ra, révolution. C'est pas mauvais, c'est même un récit d'aventure efficace, mais c'est très classique. Par ailleurs, on a une vision américano-centrée, hein. C'est l'habituel Viva America de ces années-là. Supplément, syndrome du sauveur. On a droit à des personnages relativement archétypaux. Daniel en scientifique malin mais un peu gauche. Jack en molosse ricain avec une seule émotion. Skahara en jeune débrouillard à la Aladdin. Ou encore, les soldats qui sont tous les mêmes, pour ne citer qu'eux. Et en même temps, je ne peux pas citer grand monde d'autres, notamment des personnages féminins, parce que à part Catherine, personnage plutôt positif, qu'on ne voit qu'au début, et l'archéologue qui n'apparaît que 35 secondes, il n'y a que Shaori qui n'est là que comme prétexte romantique. Bon, rien d'étonnant vu l'époque, mais c'est dommage. Notamment parce que j'ai remarqué que pour un gros blockbuster qui tâche, hein, les deux personnages principaux, eux, ne sont pas si stéréotypés que ça. Déjà, le choix d'un scientifique comme personnage principal n'était pas chose courante à l'époque. Le cerveau et le savoir avant les muscles. Mais surtout, Daniel n'a pas l'état qu'a habituellement cet archétype. Mystère lunette, là. Bon, bah, il est pas du tout lâche, par exemple. Partir dans une autre galaxie sans être sûr de revenir? Let's go! Une créature alien qui pue? Allons lui faire des papouilles! Une menace inconnue va apparaître d'un instant à l'autre. Ça sort les flingues! Faire face à une entité extraterrestre ayant la puissance d'un dieu? Mais on se démonte pas! Et on tape la causette. Il est plutôt cool en vrai. C'est pas du tout le loser que le début du film semble annoncer par le biais de détails, comme le fait qu'il soit allergique en voyage. À ce moment, tu te dis, ok, le mec va être une galère, mais pas du tout au final. Il est curieux, cultivé, poli, et détails non négligeables, c'est un mec correct.
Non, vous n'êtes pas obligé, c'est pas la peine.
Et pareil pour le colonel. Déjà, le film nous l'introduit dans une scène assez lourde, où on apprend que son fils s'est tué avec son arme de service. On trouve donc le colonel O'Neill dans une situation familiale terrible, et la mise en scène laisse penser qu'il aurait même des envies suicidaires. Mine de rien, c'est une entrée en matière intéressante pour un personnage qui est censé être le soldat classique unidimensionnel. Bon, par contre, occasion manquée, parce que c'est pas très exploité. Son état émotionnel ne sera jamais exploré, la mort de son fils n'est jamais débattue, cette perte dramatique ne sera là que pour créer un léger lien avec Skahara et pour donner quelques leçons plutôt positives anti-armes, mais qui ne seront pas vraiment suivies, au final. Ah si, tout ça sert un peu à justifier le fait qu'à un moment, il est prêt à rester sur place pour faire exploser la bombe nucléaire. De fait, ça ne servait pas à grand chose d'ajouter cette origin story, ça aurait pu être justifié par les valeurs du personnage, tout simplement. Non, là où Jack se démarque par rapport à son rôle symbolique, c'est dans son attitude en général. Son comportement monolithique, surtout au début dans la base...
À partir d'aujourd'hui, plus aucune information ne sera communiquée au personnel civil sans ma permission express.
...nous annonce un gros con. clairement. Pourtant, jamais il ne se comportera comme tel. Il est professionnel, ne joue pas le jeu de ces soldats qui maltraitent Daniel, écoute ce dernier, utilise ses compétences.
C'est où le linguiste ? Allez leur parler.
Et il essaye de communiquer avec les gens, sans jamais trop les juger, eux ou leur culture. Ce qui est quand même à souligner. C'est pas un bout en train, mais c'est pas un connard. Et puis, il y a des détails dans le jeu de Russell qui me plaisent vraiment. Notamment quand il va rentrer dans la porte des étoiles. Il la joue pas en mode sûr de lui et conquérant. On voit qu'il est inquiet. Il serre les dents pour dominer sa peur. L'humain transparaît. Ce genre de petit truc, c'est ce que j'adore dans l'interprétation des comédiens. Ça apporte un vrai plus au film. Bon, après, je reconnais que le fait d'introduire des caractéristiques dans des personnages et ne rien en faire par la suite peut venir d'un défaut d'écriture. Mais écoutez, c'est pour le mieux, je vais pas trop critiquer pour le coup. Tous ces éléments font de Stargate l'un des cas typiques de ces films grand public qui alternaient à la fois délire pulp à grand spectacle avec une légère profondeur un peu inattendue par moments qui donnait leur saveur au blockbuster réussi de cette époque. Une formule que Roland Emmerich, le réalisateur, maîtrisait parfaitement dans les années 90 à mon sens. On le voit avec ces deux films suivants, Independence Day et Godzilla, que je considère comme s'inscrivant parfaitement dans cette démarche, avec même des similarités dans le traitement de ces personnages. Je vais pas trop développer sur ces films parce que je pense que j'en parlerai un jour, mais retenez juste que pour moi, Emmerich faisait des bons films popcorn. Pas des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais des films de divertissement honnête qui ne prenaient pas trop les gens pour des cons, surtout faits avec le cœur et qui tiennent la route encore en 2026. Je ne mets pas Universal Soldier parce que je vous avoue que je ne l'ai jamais revu depuis l'époque, mais j'ajoute aussi Le Jour d'après qui est un peu plus tardif. Parce que depuis, Roland de Bad Wittenberg là, il a plus fait un seul bon film. 10 000, une merde infâme, 2012, une catastrophe à la morale dégueulasse, Independence Day Resurgence, vous savez ce que j'en pense.
Pourquoi ils ont fait ça ?
Et Moonfall, j'ai envie de m'ouvrir le crâne rien que d'y penser. C'est un mec qu'on considère comme une espèce de maître dans l'art du film catastrophe, des scènes de destruction gigantesques ou d'action tonitruante. Sauf que c'est faux, ou tout du moins, ça n'est plus vrai. Dans ses films des années 90, ses séquences avaient un minimum de sens, et il savait les amener dans son récit. Par exemple, dans Independence Day, l'attaque alien n'intervient qu'au bout d'une heure de film, presque la moitié. Il prend le temps de présenter ses personnages, et il y en a plein, il prend le temps de faire monter la pression, tout ça pour que l'attaque soit un grand moment de libération pour le public. Une performance créative et artistique qui prend tout son sens dans un déluge de feu. Il savait alterner le rythme de ses œuvres. C'était trop bien, c'était du vrai cinéma de blockbuster. Maintenant, le mec il te fout juste des monuments détruits en CGI sans faire ce travail de préparation au préalable, comme si la technique et la représentation suffisaient. Mais c'est pas le cas, c'est sans substance. Le pire c'est vraiment Moonfall, genre t'as deux personnages qui parlent ensemble, hein, et puis hop, cut, méga tsunami. Sans aucune préparation au préalable, rien. Emmerich est devenu un tâcheron, c'est terrible. Le mec, dès qu'il a eu des possibilités techniques plus simples pour donner naissance à ses idées visuelles, il a complètement oublié le reste. Et encore, perso, je défends 4 de ses films, hein. Tout le monde n'a pas cette mansuétude, faut pas l'oublier. Bref, je considère Stargate comme le premier de ces bons films grand public, un film que vraiment j'adorais enfant. Tenez, encore aujourd'hui, quand je suis sous l'eau, je regarde la surface et je pense à la porte des étoiles. C'est systématique. Et puis rien que les armures des sbires de Ra, mais quelle putain de classe! Ça me faisait rêver. Et tout ce lore avec une civilisation extraterrestre qui aurait influencé l'humanité, bah quand t'es gosse, ça peut que te plaire. Et c'est pour ça que je suis assez étonné de constater que quand je parle de Stargate, presque tout le monde me parle des séries, et pas du tout du film. C'est la particularité de cet univers. Il est certainement davantage connu pour les séries qu'il a engendrées, plutôt que par l'œuvre qu'il a fait naître. Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, ou encore Stargate Origins, plus deux films suite de SG-1. Force est de constater que la saga existe davantage par le format sériel que filmique. Des séries qui vont agrandir cet univers. La Porte des Étoiles n'est qu'une parmi tant d'autres, dans un réseau de transports gigantesque. Ra n'est en fait qu'un seul représentant d'une espèce dominante plus large, les Goa'uld, qui changent complètement de forme pour l'occasion. D'ailleurs, tous les dieux terrestres étaient en fait des aliens. Enfin, ceux des religions anciennes et disparues, hein. Ils ont pas eu les couilles de faire pareil pour les religions encore existantes. L'univers est en fait peuplé d'une multitude de civilisations différentes, l'humanité terrestre aura même un vaisseau spatial au bout d'un moment, faisant passer définitivement la saga du Planète Opéra à du pur Space Opéra. Perso, je préfère largement ce que proposait le film à ce que c'est devenu par la suite. Bigger is not always better. Pour être tout à fait honnête, j'aimais bien SG-1 quand c'est sorti. Mais bon, j'étais quand même dubitatif. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur la série Space 2063...
À poil dans les conduits.
À poil dans les conduits, capitaine.
À poil dans les conduits.
Vous vous rappelez certainement que ce qui m'avait plu dans celle-ci, en plus de toutes ses qualités, c'est qu'on y sentait que la science-fiction y était traitée sérieusement, à la fois en termes d'écriture, mais aussi de production esthétique, comme dans Babylon 5 par exemple, ou plus tard, Battlestar Galactica. Sincèrement, SG-1, c'était sympatoche, mais même pour l'époque, c'était quand même très kitsch, quoi. Surtout quand à base dans cet univers, c'était le film. CGI d'époque, donc bon. Costume très très loin d'avoir la qualité du long métrage. Tous les épisodes tournés dans les forêts canadiennes. Et puis au début, ça reprenait le concept du film de manière abusive. Tout ça certainement pour des questions de budget. Donc après la planète des Égyptiens, on avait droit à une diaspora humaine dans tout l'univers. Hein. On avait la planète des Vikings, la planète des natifs américains, la planète des cow-boys, la planète des chevaliers, la planète des employés de bureau en mairie, hein, que sais-je. Il y avait bien quelques propositions originales et la série ne manquait pas de bons épisodes. Et vraiment, j'ai pas envie de dire que c'était de la merde ou de gâcher le plaisir des gens qui aiment ces séries. Mais c'est juste que moi, au bout d'un moment, ça m'a lassé, quoi. Je trouve que ça partait dans tous les sens. Et encore une fois, pour être honnête, même si je connais les évolutions des différentes séries parce que je me suis renseigné, en réalité, à l'époque, j'ai arrêté vers la saison 4, je crois, avec l'arrivée des réplicateurs. J'ai vu que le pilote d'Atlantis. Par contre, j'ai regardé Two Universe. Celle-là, je l'avais trouvée intéressante, mais elle était annulée. Donc bon. En fait, SG-1, je voyais vraiment ça comme une forme de nivellement par le bas pour les spectateurs. Il y avait un film avec toute la qualité de production que ça supposait, un film qui était censé avoir deux suites d'ailleurs, mais à la place, dans une logique purement économique, on a eu droit à des séries kitschouilles, sympathiques, mais bien loin de ce que proposait l'œuvre originelle. J'ai le sentiment que si le film est un peu oublié, c'est surtout parce que la majorité des gens qui ont découvert cet univers, bah, c'était grâce aux séries. Leur attachement est donc dirigé vers celle-ci, tout comme la mienne, l'est pour le film. J'ai rencontré des fans qui n'avaient même pas vu le film, quand ils savaient qu'il existait, hein. J'ai eu des surprises à ce niveau-là. Notamment auprès des gens qui ne sont pas forcément des passionnés de SF, mais dont Stargate SG-1 était un souvenir d'enfance qu'ils chérissaient. Ils n'avaient jamais cherché plus loin, en fait. Et j'ai pas d'équivalent. Mais maintenant que j'y réfléchis, si, il y a Buffy contre les vampires. Il y avait un film, à la base, mais la grande majorité des gens connaissent via la série. En tout cas, je suis curieux. N'hésitez pas à dire en commentaire à quelle catégorie vous appartenez, les fans du film ou les fans de la série. En définitive, vous l'avez compris, à mon sens, il n'y a qu'un seul Stargate, le film. Et si vous ne l'avez jamais vu, je ne peux que vous encourager à le regarder, ne serait-ce que par curiosité et pour votre culture cinématographique. Vous passerez un excellent moment. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver Die est toujours en cours. On s'approche du prochain palier de 750 000 euros qui permettra d'avoir un niveau supplémentaire, mais aussi des cinématiques, un thème composé par PV Nova. Bref, rendre le jeu encore plus cool. Et surtout, mettez le jeu dans votre wishlist Steam. C'est hyper important pour nous. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne sur Projet Dernière Chance. Abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo, ça vous évitera de vous retrouver avec une larve alien dans le bide. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.